Voilà, bonjour à chacun, chacune. Voilà, donc, désolé mon frère, voilà. Incendiaire ou agent de prévention. Souvent on a les deux. Récemment, dans les cas de feu intense dans les forêts, on s'est aperçu que ces incendies étaient allumés par des pompiers qui aimaient aller les éteindre après, mais qui souvent se trouvaient débordés par l'incendie. Et la semaine dernière en tout cas, nous avons abordé ce sujet brûlant de notre langue. Notre langue qui détruit. On a cité cette parole de l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 45. En principe, ce qui était la semaine dernière, l'ont noté, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a vu que notre bouche ne pouvait être le reflet que d'un cœur, ou transformé ou non transformé. On a vu la semaine dernière que notre langue était une usine de production. Alors j'ai trouvé la photo d'une usine. Et que notre langue, en fait, en était l'agent commercial. Vous voyez que l'agent commercial, il a le sourire, il vante l'entreprise. Eh bien, mes amis, il y a un beau rapport, c'est que si Dieu a mis dans notre cœur une production magnifique, notre langue s'en fait l'agent. C'est-à-dire que théoriquement, elle doit, comme Pierre a essayé de nous faire faire ce matin avec difficulté, de louer Dieu et pas de maudire, de médire. Notre langue peut bénir, maudire, juger ou pardonner, encourager ou même tuer. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, versets 20 et 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et regardez bien la fin du verset, on l'avait lu la semaine dernière, « La mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. » La mort ou la vie sont au pouvoir de sa langue. C'est le verset 21 de Proverbes 18. Et je termine pour rappeler la semaine dernière où on a même lu dans le prophète Jérémie. Vous savez que le prophète Jérémie annonçait la parole de Dieu. Et au verset 18 du chapitre 18, il dit, ses ennemis, il dit, ne l'écoutons plus, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Et mes amis, nous pouvons être ces incendiaires. Nous sommes souvent ces incendiaires qui allument les feux. Au lieu de louer Dieu. Notre usine a fait de nous des serviteurs, et c'est pour ça que j'ai trouvé 100% service. Comme les Suisses, hein. Si vous avez des amis suisses, souvent, quand vous leur posez une question, et qu'ils répondent avec gentillesse, et vous leur dites merci, ils font la réponse, après ils disent service. Je suis à votre service. Regardez Jacques chapitre 3, c'est notre thème de ce matin. Jacques chapitre 3, à la fin du Nouveau Testament, dans l'introduction des Épîtres, le demi-frère Jésus s'est penché sur ce problème. Il parle de la langue. Avant d'arriver à ce chapitre 5, il a dit « Notre langue, elle est comme ce tout petit gouvernail qui dirige ces gros bateaux. » Au verset 5, il dit « Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ?» La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Il les a effectivement domptés. Regardez bien le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau, impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source pour être par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives? Ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Ouf. Jacques, on aurait pu intituler ça les lamentations de Jacques. Qu'en est-il parmi nous? On peut allumer le feu, hein, sans paraphraser Johnny Hallyday, mais on peut aussi être cette source, cette barrique, cette fontaine où d'un côté il y a l'eau douce et l'autre côté l'eau salée. C'est pas possible. Une fois que l'eau est salée, elle est salée. Pour la dessaler, il faut un filtre. Non ? La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Notre texte nous dit, elle contamine, elle infecte. Elle ne peut la dompter, c'est un fléau. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc quand on est averti, mes amis, qu'il y a un venin dans notre corps, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut se soigner. Et souvent, le temps est court, hein? Il y a certains animaux, s'ils vous piquent, c'est pas en heure que le temps y compte, hein. C'est en secondes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors si nous sommes avertis, souvent on oublie. Le proverbe 12-18 nous dit ceci. Proverbe 12-18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. C'est une épée, hein, un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. J'aimerais ce matin brosser quelques repères sur la base de ce texte de Jacques 3 qui nous avertit. Nous dit votre langue, vous aurez du mal à la maîtriser. Vous aurez du mal à retenir votre langue de dire des méchancetés, des plaisanteries, des plaintes, des médisances. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque nous affirmons, lorsque nous chantons que Dieu a changé mon cœur, il a mis une nouvelle usine à l'intérieur, et qu'on continue de diffuser ce que le diable avant nous faisait dire, alors où est le problème? Où est le problème? Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Waouh ! La barre est haute, mes amis, n'est-ce pas ? La barre est difficile à atteindre. Là, c'est le record du monde du saut à la perche. 7,50 m. Aucun n'y est arrivé. Nous sommes encouragés, et c'est le but de ce matin, d'examiner nos paroles. Je n'examine pas vos paroles, j'examine nos paroles. Quel est le but? Pourquoi parle-t-on? Quels sont mes sujets de conversation favoris? centré sur les défauts des personnes, de ceux qui m'entourent, centré sur les défauts de ceux de l'Église, sur les choses terrestres, le travail, les vacances, les projets, les contrariétés, centré sur mes hobbies, le sport, l'art. La question est, est-ce que je parle tout autant, est-ce que j'utilise ma bouche tout autant pour parler de sujets spirituels, de ma marche avec Dieu, de questions et de découvertes bibliques? Est-ce que parfois, admettons-le, nous ne faisons pas preuve d'une certaine timidité spirituelle devant ceux qui nous entourent? Et dans nos discussions, nous préférons laisser aller notre langue à bien d'autres propos que ceux que Dieu attend. La première chose que la Bible nous dit, que j'aimerais parler ce matin, c'est la douceur. Que votre douceur, Philippiens 4:5, soit connue de tous les hommes. Ouh ! Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le choix, mes amis, d'être doux avec ceux que nous aimons et d'être doux avec ceux que nous n'aimons pas, hein, ou qui ne nous aiment pas. T'es méchant, tu vas voir. Tu vas voir. Enfin non, tu ne vas pas voir. Seigneur, tu ne devrais pas leur faire voir. Paul, l'apôtre, est présenté comme une personne dure, autoritaire. 2 Corinthiens 10 nous dit même qu'il avait du mal à utiliser une certaine hardiesse. Il nous parle de tristesse, de larmes. Et pourtant, il va dire dans ses lettres, « Je vous aime de l'amour d'une mère. » C'est incroyable de voir combien une maman peut avoir un cœur plus tendre. Et quand il y a un débat, hein, au début ça fume, mais après, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que notre douceur, et la douceur c'est souvent aussi cet instrument qui la montre, n'est-ce pas? Je vous avais parlé de cet orateur bien connu auprès du Seigneur aujourd'hui qui faisait tout un week-end sur ce sujet et qui, en voyant les enfants étaient laissés un petit peu à eux-mêmes, et donc au bout d'un moment, l'orateur, ne supportant plus ses enfants qui couraient à droite, qui couraient à gauche, qui criaient, qui remontaient sur les genoux des parents, d'un seul coup de s'exprimer, mais quelqu'un peut s'occuper des gosses ou quoi? Reprenez un séminaire sur la douceur. C'est un peu difficile là, hein? Il a perdu un petit peu le fil. Ne sommes-nous pas les mêmes? Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Pas simplement de ceux qui nous aiment. De tous les hommes. Notre langue, est-ce qu'on la laisse aller avec ceux qui racontent des histoires, ceux qui aiment maudire, médire, utiliser des mots qui n'ont plus rien à faire dans nos bouches? La douceur. Éphésiens chapitre 5 verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça ne veut pas dire, là la Bible ne nous dit pas qu'il ne faut pas rire, nous amuser, plaisanter, mais de la bonne façon. La Bible condamne les grossièretés, ces mots qu'on utilisait pour certains à profusion, avant que Dieu ne change notre cœur. En tant que chrétien, nous devons donc éviter certains types de discussions ou d'humour. Il y a des stations de radio qu'on peut écouter et qui dispense un humour gras et sous la ceinture. Des histoires à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Des histoires qu'on entendait dans le temps vers 23h ou minuit, mais qu'on peut écouter maintenant 24h sur 24. Un des garages, je crois que je vous l'avais déjà raconté, un des garages où je travaillais quand je travaillais avec Michelin, dans ce garage, ils avaient toujours cette radio allumée. Et un jour d'autorité, j'ai changé le poste, j'ai fait, bon, et ça suffit, hein. Donc j'aurais mis une radio classique. Ils n'ont pas tous aimé. Et ce qui était devenu intéressant, c'est que quand j'arrivais dans la cour, les années d'après, j'entendais la radio qui tournait, et le premier qui était au poste, l'agent commercial qui était juste devant, il ouvrait la porte du garage, il disait « Attention, v'là Jésus !» Alors on changeait de radio, parce qu'il savait que si eux, ils ne le faisaient pas, moi j'allais le faire. Parce que si je nourris mes oreilles, mes yeux, avec des choses que je n'ai pas envie, c'est ce qui fait le diable. Il les fait bien pénétrer. Et ça reste. Et d'un seul coup, on se met à utiliser des mots. On se met à penser à des choses. On se dit, tiens, c'est bizarre. Oui, mais on s'en est nourri. Essayez de passer 24 heures à entendre des grossièretés. Et essayez après de les oublier. Non ? Qu'est-ce qu'on écoute comme radio ? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ? Des images dures sont difficiles à enlever, non ? Faites toutes choses sans murmure. Le peuple a murmuré à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de ça ? Il a murmuré contre Dieu. Il a murmuré contre Moïse, contre Aaron. Il s'est plaint. C'est pour ça que je dis, probablement, la première génération d'hommes sur la terre devait être français. Les Français savent se plaindre. Et vous savez ce qui est arrivé à ce peuple ? Il n'est pas rentré dans la terre promise. Il est mort. Et la deuxième génération, quand Moïse parle avec cette deuxième génération, il dit, si vous faites comme vos pères, vous aussi, vous allez mourir. C'est pas un avertissement sans frais, mes amis. Si la Bible nous dit que cette langue a été construite avec du venin, si on sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de pas bon, nous devons, et nous avons la possibilité de la rectifier. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce. On ne rend pas grâce pour toute chose, n'est-ce pas ? On est même plutôt énervé. On fait un jugement rapide à Dieu. Mais alors, Seigneur, t'as rien entendu ou quoi, là ? T'as pas compris le dossier. Je te réexplique. J'ai besoin de ça. Pourquoi tu le donnes pas ? Tu sais que j'ai besoin d'un boulot. Tu sais que j'ai besoin de diplôme. Tu sais que j'ai besoin d'argent. Tu sais que j'ai pas besoin de casser ma voiture. Tu sais. Ah, tu sais déjà ? Ah bon ? Ah, j'ai pas. Non. Mais l'attitude est pas bonne. Bon. Rendez grâce. Plainte ou reconnaissance ? Seigneur, tu as un plan, j'avoue qu'il est bien différent du mien. Est-ce que je prends du temps à chercher le plan de Dieu ? Pour qu'on arrête de se plaindre, pour qu'on essaye de comprendre ce que Dieu veut, ça implique une proximité avec notre Dieu. Du temps avec lui, du temps dans sa parole. Avons-nous vraiment le droit d'être bénis par Dieu ? C'est la grâce, mes amis. si Dieu nous donnait en fonction de notre langue, de nos attitudes, de nos réactions, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose. N'est-ce pas? Et il y aurait certainement le bureau des plaintes. Je comprends pas ta réponse. Seigneur, ça complique mon plan. Ça complique mon plan. Vendredi, j'avais rendez-vous avec un collègue. Et pour mon bien personnel, mais c'est aussi son bien, je vous rassure, hein, on se retrouve dans un endroit où chacun de nous, on a juste une ligne de RER à prendre. C'est-à-dire comme ça, on change pas. Et on se dit, au moins c'est bien. Donc vendredi, une fois par mois, j'ai rendez-vous avec ce collègue dans le centre de Paris. Et on prend rendez-vous chacun au bout de notre ligne. Et vendredi, j'arrive à la gare, je fais génial, je suis en avance, ça va être bien. J'avais un peu de travail à faire. Super, j'arrive à la gare. Mesdames et messieurs, le train n'ira pas à destination. Vous voyez, descendre à Juvisy, puis vous descendrez à Gare de Lyon, puis vous descendrez à tel endroit. Là. Je dis, oula, ça se complique un peu. Et grâce à Dieu, je suis arrivé à l'heure, et lui aussi. Et tous les deux, on avait les mêmes problèmes de train, parce qu'il y avait eu un incident à la bibliothèque François Mitterrand, je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là. Et vendredi, il y a eu un problème. Dieu a changé les plans. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le train, quand ils ont fait l'annonce, il y avait deux monsieur qui étaient complètement perdus. C'était la première fois qu'ils prenaient le RER. Et ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on allait au même endroit. Et Dieu a permis. Il a changé mon plan pour que je puisse aider deux autres personnes. J'aurais pu passer mon temps, et j'en avais envie, allez, frères et sœurs, de râler. De dire, Seigneur, écoute, c'est une fois par mois, faut pas exagérer, quoi. C'est pas compliqué, une fois. Le Seigneur aurait pu me répondre, justement, comme tu le prends pas très souvent, ben, je vais t'utiliser. Mais on a plutôt envie de râler quand ça arrive, hein. Allez, vous comme moi. On a envie de râler. Nos remarques. Les mots qu'on laisse divulguer, les blessures qu'on envoie à un frère ou à un ennemi. Jacques chapitre 4, le chapitre d'après de celui de ce matin, dans les versets 11 et 12, nous envoie un message sur la médisance. Ne parlez point mal les uns des autres. C'est le verset 11. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ouf. Ne parlez point en mal les uns les autres. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, si t'as rien à dire de bien sur telle personne, vaut mieux pas en parler. Et alors des fois, ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire de bien alors? Sur lui? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Alors il est... Je sais pas. Enfin, ouais, c'est un frère. Sûrement. Oui, ça fait réfléchir. Hein. Parce qu'on connaît pas le frère. On connaît ses défauts ou la sœur. Mais qu'est-ce qu'on connaît de bien? Ça veut dire qu'on n'a pas cette proximité avec lui aussi. Ne parlez point mal les uns les autres. Jacques 4 dit que si on a un zèle amer, si on a de l'amertume dans notre vie, si on laisse notre langue parler, nous sommes diaboliques. Waouh! Vous connaissez un enfant de Dieu diabolique? Faut qu'on aille voir un psy, hein, parce qu'on a un problème de personnalité là. On devient bipolaire, on dit. La troisième épître de Jean au chapitre 9 et au verset 10 nous parle de Diotrèphe. Qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des propos méchants. Non content de cela, c'est les versets 9 et 10, hein, Il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Waouh ! Comment sommes-nous connus ? Cette médisance qui finalement pourrait nous faire plaisir, sans amour, voire pour nuire à autrui. Une telle médisance ne produit que mépris, esprit de jugement, moquerie, calomnie à faire avancer. Vous savez, j'ai souvent à dire que c'est pas parce qu'un bruit ne tient pas debout qu'il ne sait pas courir. C'est pas parce qu'un bruit ne tient pas debout qu'il ne sait pas courir. Et souvent, on a du mal à arrêter ces médisances qui courent, ces choses qui n'ont pas place entre nous. Quand une conversation s'arrête, quand on a du mal à remplir la conversation, quelles sont nos motivations ? Nuire à la personne dont on parle ? Entacher sa réputation, attirer, voire attirer une sanction sur elle. Ah oui, tu devrais la punir. L'isoler des autres. Ou alors, est-ce que notre motivation pourrait être de servir l'autre? Ah oui, c'est vrai que il ou elle a des difficultés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour l'aider? Est-ce que notre motivation pourrait être de protéger? Oh, écoute, j'en sais pas plus, on n'en parle pas. De prévenir, attention. Tu vas tomber. Glorifier Dieu. Oui, c'est un frère, oui, c'est une sœur. Il ou elle est tellement différent de moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a choisi la diversité pour faire de nous des gens complémentaires. Ou est-ce que notre remplissage de discussion peut être pour demander justice ? Comme la veuve, vous rappelez ? On va essayer d'aider cette sœur ou ce frère, il s'en sort pas. Vous voyez que je fais un choix. Je fais un choix dans mon discours : nuire ou bénir. Mais malheureusement, dans les discussions, quand la discussion va, on a un peu de mal, hein. Vous avez vu, quand ça part de côté, ça part de travers, c'est un peu comme les voitures sur la glace, hein. Mettez le pied sur le frein, malheureusement, c'est très mauvais réflexe. Et là, vous contrôlez plus rien. Notre langue, par la médisance, allume des incendies qu'il faut éteindre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des incendiaires. Dieu ne veut pas de nous faire de nous des pyromanes. C'est ce que nous étions avant. La croix, elle, a éteint le feu. Non seulement elle a éteint le feu, mais elle a réparé les braises. La Bible nous encourage, frères et sœurs. Elle nous avertit par Jacques, attention votre langue, il y a du venin dedans. Arrêtez d'empoisonner l'existence des autres. Remplissez votre bouche, laissez votre cœur parler. Et si votre cœur n'est pas en bon état, alors la Bible nous affirme qu'elle peut changer ça. Qu'on n'a pas besoin d'aller dans un hôpital pour ça. D'être mis sous anesthésie générale. Mais que notre Dieu peut le faire. Si on me faisait la même chose, comment est-ce que je réagirais ? Et souvent, si nous sommes prolixes dans un sens, souvent, les choses reviennent. Nous sommes encouragés. La Bible nous encourage à quelque chose qu'on avait tellement de mal à avoir avant, le respect. J'ai montré cette diapositive tout à l'heure avec le 100% service. Mais le 100% service reconnaît que les autres sont utiles, qu'ils ne sont pas nuls. Je crois vous avoir raconté cette histoire. Un jour, je me suis engagé sans trop réfléchir dans les travaux de rétablissement d'un bureau. J'étais stagiaire dans une église et le bureau était vraiment en petits morceaux. Alors, quelqu'un m'a dit, bon, on va rétablir ce petit mur, on va faire ceci, on va faire cela. Tu peux m'aider? Et moi, j'ai dit, bah oui, je peux aider. Mais le frère a entendu, tu peux le faire? Et là, j'aurais dû dire, non, je sais pas faire. Donc, il m'a amené un sac de plâtre, il m'a amené une toile, il m'a dit, l'eau est là, et il est parti. Et là, j'ai fait, au secours! Je fais quoi, moi? Alors, j'ai essayé, j'ai mis du plâtre avec de l'eau. J'ai tourné, j'ai essayé de faire tenir ça. Et ça tombait. Alors, j'ai remis du plâtre, et j'ai remis de l'eau, et j'ai remis par terre. Et ça a duré un certain moment, jusqu'à ce que le sac soit presque vide. Et qu'en fait, il soit étalé à plat, et pas comme ça, hein. Alors j'ai appelé la femme, j'ai pas osé appeler le frère directement, j'ai appelé sa femme. J'ai dit, il est pas dans le secteur, ton mari? Elle fait, si, mais là il est très très occupé. Je fais, ouh, oui, je sais. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais lui dire de me rappeler? Parce qu'il y a un problème. Elle fait, il y a un problème? Je dis, ouais. T'as un problème? Je fais, oui, moi j'en ai un, oui. Donc dis-lui de me rappeler assez vite parce que j'ai plus de plâtre, elle me dit. T'as plus de plâtre? Et qu'est-ce que ça fait avec? Juste dis-lui de m'appeler. Une demi-heure après, il est rentré dans le bureau. Il ne m'a pas appelé. Il a regardé le plâtre, il a fait « Waouh !» Tu sais pas faire? J'ai dit « Ben non !» Il dit « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» J'ai dit « Tu m'as demandé si je pouvais aider. Je peux te mettre de l'eau dedans. » Mais monter le mur, je sais pas faire. On n'avait pas bien communiqué tous les deux. Quand j'ai dit aider, ça voulait dire aider. Et souvent, on entend des choses qu'on veut bien entendre. Oh, tu m'as dit. Ah non, je t'ai pas dit ça. Il faut un bon décodeur. Hein. On n'est pas tous chez Canal+. Romains chapitre 14. Regardez-le avec moi. On le connaît. Romains chapitre 14. Et pour vous dire, il a monté le mur avec le restant du plâtre que j'avais. Hein, lui. Depuis, il ne me demande plus de construire ces trucs. Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Telle fait la distinction entre les jours. Verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Admettre que nous pouvons avoir des conditions non essentielles, différentes. Ne pas nous juger. Ne pas laisser le diable utiliser nos faiblesses, nos différences, nos manquements. Mais permettre que nous puissions les uns avec les autres bâtir pour Dieu. C'est vrai aussi que la Bible nous dit qu'il y a de la place pour reprendre quelqu'un directement. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, verset 6. Reprendre avec un esprit de douceur. Reconnaître nos propres faiblesses et ne pas éprouver de l'orgueil. Oui, nous pouvons reprendre et nous pouvons être repris. Mais dans quelle mesure ? De destruction ou de réparation ? Quand il y a un conflit entre nous, est-ce qu'il peut y avoir réconciliation ? Ou avons-nous fait une gradation, comme dans certaines religions, où tel péché, c'est mortel ? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Prudent. Frères et sœurs, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas à la création. Les eaux d'en haut pour bénir la terre, les eaux d'en bas pour nourrir la terre. Mais il y a aussi des tsunamis, il y a aussi des sécheresses. Il y a aussi des moments où notre terre souffre. Nous ne sommes pas là pour imposer ces mauvaises choses à nos frères et sœurs. Ou permettre au diable d'utiliser notre bouche pour qu'il ait l'impression que nous lui appartenions toujours. Mesurer nos paroles. Faire attention de ne pas pécher. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 15. J'aimerais, avec la permission de Dieu, que nous puissions travailler entre nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes agents de réconciliation. Nous sommes les déverseurs de la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Nous avons dit que nous avions quitté le royaume des ténèbres. Que nous voulions marcher ensemble dans la lumière. Mais il y a toujours des conflits. Mais il y a toujours des jugements. Mais il y a toujours des critiques. Nous sommes des hommes. Des femmes, nous sommes charnels. Mais Romains 6 dit que notre vieux corps, notre vieille nature a été clouée. Aujourd'hui, nous sommes avertis, gratuitement, par Dieu, pour ne pas faire usage de notre langue avec des choses mauvaises, pour détruire les autres, pour détruire l'Église de Dieu, pour détruire Dieu lui-même. Quelqu'un écrit ce petit poème qui m'a intéressé. Il y a tant de portes. Vous comprendrez pourquoi j'utilise ce poème. Il y a tant de portes à ouvrir chez nous. Portes de ma maison pour les voisins et l'inconnu de passage. Portes de mon jardin pour le visiteur, le flâneur en quête d'amitié. Portes de ma voiture pour cette personne en détresse. Portes de mon école, diraient les petits, pour accueillir les nouveaux copains. Porte de l'église, comme ce matin pour le touriste, en recherche de paix. Il y a tant de portes à ouvrir dans ma maison, porte de mes yeux, ensoleillant la banalité du quotidien. Porte de mes lèvres, invitée à bénir le Créateur et mes frères de tous les jours. Porte de mes oreilles, captant les messages de joie et les cris de détresse. Porte de mes mains, grandes ouvertes à l'amitié, au partage. Mais il y a une porte, celle de mon cœur. Porte de l'amour, porte du bonheur, porte de la joie. Cette porte, c'est toi, Jésus. Tu m'invites au passage où tout est grâce et lumière. Est-ce que nous avons ouvert cette porte ? Les autres portes s'ouvriront, mes amis. Jésus a dit : Je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Il a porté le pardon, l'amour, la réconciliation. Pourquoi le retenons-nous ? Pour toi, pour, Pourquoi est-ce que nous continuons à vivre comme si nous vivions dans cet autre monde? Alors Jacques, si ce matin, dans son introduction, nous lançait la cote d'alerte, l'apôtre Jacques nous a laissé l'ordonnance. Et je vous invite à aller un peu plus loin dans notre chapitre, chapitre 3, verset 13 de Jacques, l'épître de Jacques, où dans sa deuxième partie, Jacques donne l'ordonnance. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment la paix, dans la paix, une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Waouh ! Voilà ce que Dieu veut nous laisser ce matin. Voilà ce à quoi, frères et sœurs, je nous invite à travailler. À contrôler cette langue, à ne pas lui laisser dire n'importe quoi. Ça veut dire remplir mon cœur des choses de Dieu. Ne pas maudire, ne pas médire. La semaine dernière, j'avais lu ce verset dans le psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. Un beau défi, non? Pour faire taire les bruits, pour faire taire les méchancetés, pour faire taire ce qui divise, ce qui blesse, ce qui paralyse, et peut-être ce qui tue. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, tu veux nous avertir. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a supporté les colibés, a supporté la méchanceté, a supporté la souffrance, l'injustice. Mais tu l'as fait pour que nous qui aujourd'hui sommes passés par ta porte, nous puissions cesser d'utiliser ces armes entre nous et envers ce monde. Et toi, Seigneur, tu nous connais, tu sais exactement, avant que chaque mot ne franchisse le seuil de notre bouche, tu sais de quoi notre cœur est fait, notre vie est faite. Nous nous laissons tellement vite emporter. Nous laissons tellement vite cette bouche maudire, médire. Seigneur, tu nous avertis ce matin qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors Père, je veux te demander pardon, moi déjà, ton serviteur. À chaque fois que ma bouche parle mal d'un frère ou d'une sœur, laisse des mots qui ne te plaisent pas, qui ne t'honorent pas, franchir le seuil de ma bouche. Parce que ce n'est pas ce que tu attends de moi. Et Seigneur, je te demande de m'aider à contrôler ces choses, plus que tous, parce que tu m'as donné la charge de l'Église. Et je dois être ton modèle. Seigneur, j'en profite pour demander pardon si un frère, une sœur a été blessé par mes mots, par mes regards, par mes réactions. Et Seigneur, je veux te remettre ce matin ta communauté, tous mes frères et sœurs, tous ceux que tu as amenés, même nos nouveaux amis ce matin, ceux qui nous visitent, afin qu'eux aussi soient attentifs à ne pas parler avec légèreté, à ne pas maudire, médire, faire le mal, mais au contraire faire le bien. Et Seigneur, j'aimerais inviter maintenant ce matin ceux et celles qui peut-être ont réalisé en écoutant ce message que nous rentrons tellement facilement dans ce domaine où nous laissons vagabonder notre langue, nous laissons nos pensées ne pas être canalisées, mais au contraire s'égarer, et qui aimerait ce matin citer avec moi ce verset, « Seigneur, garde ma bouche ». C'est un engagement, c'est difficile, parce que si Seigneur nous te le demandons, nous devons être attentifs aussi. Alors Seigneur, je voudrais juste que tu parles à mes frères et sœurs ce matin, non pas pour les juger, parce que nous ne sommes pas là pour juger. Mais si quelqu'un, un frère, une sœur, a le sentiment qu'il n'a pas été droit, qu'il n'a pas été juste, que peut-être oui, les paroles qu'il a prononcées envers l'un, envers l'autre, n'ont pas été celles que toi tu aurais aimé entendre. Je veux juste que là, Seigneur, sans que nous les jugions, sans que je juge moi, qu'ils puissent lever la main et qu'ils puissent prier. Oui, Seigneur, aide-moi, mets une porte devant ma bouche. Oui, que Dieu vous bénisse, mes amis. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? C'est un engagement devant Dieu. C'est pas oui, que Dieu vous bénisse, mon frère. Tu es un Dieu humble, un Dieu qui est patient envers nous. Il nous connaît. Il connaît nos défauts, mes amis. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Qui aimerait que Dieu l'aide pour le bien de la communauté, pour le bien de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit connu comme un Dieu qui parle, qui aime et qui pardonne. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces amis qui ont levé la main ce matin. Tu enlèves de moi cette image de jugement, mais au contraire, Seigneur, tu leur donnes ce matin le plein pardon. Que nous ne soyons pas entachés, Seigneur, du péché qui est autour de nous, mais que nous puissions vraiment vivre ce plein pardon entre nous, que autant que faire se peut, la Bible nous dit d'être en paix les uns avec les autres. Matthieu 5 dit même qu'avant d'aller présenter notre offrande, nous sommes appelés à nous réconcilier entre frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, pour une œuvre de réconciliation, une œuvre d'amour, afin que ce que tu as accompli à la croix ne soit pas annulé par nous. Que le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ne soit pas offensé, attristé. Mais au contraire, que nous puissions te louer pour l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton message, et merci de nous aider, de m'aider, aussi moi, particulièrement, à marcher dans tes voies et à être celui que toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen.